y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès. Alors, Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Accompagné donc de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, River vient de remporter la Copa Libertadores 2018, victoire 3-1 après prolongation face à Boca. Ça s'est joué au Bernabéu. Vous venez de vivre ce match il y a quelques instants. On y reviendra tout à l'heure avec Fred Hermel qui nous a fait vivre cette affiche. On va revenir également sur les affiches de Ligue 1 qui ont eu lieu aujourd'hui. Match nul entre Lille et Reims, match nul entre Strasbourg et Caen également. Voilà, on n'a pas, c'était pas franchement un très gros match qu'on a vécu ce soir quand même entre River et
Boca. C'est pas un gros week-end dans l'ensemble.
Il n'y a pas eu beaucoup de matchs en même temps. Donc,
oui, mais même ce qu'on a vu, c'était pas.
Non,
c'était pas fou, moi pas.
Il y a eu des bons matchs en première ligue quand même.
Ah, j'ai pas commenté le bon alors.
T'as fait lequel toi?
Newcastle, Wolverhampton. Ah, j'ai pas.
Effectivement, t'as raté le Chelsea City.
Oui.
Le Bournemouth, Liverpool.
Oui.
Le Manchester United qui a fait un bon match face à Fulham, alors dernier de PL, c'est vrai.
Oh, qui a fait un bon match.
Ah, ils ont été bons.
Ah, moi j'ai trouvé Fulham honnêtement très faible.
Ouais,
très très faible sur ce match.
Ouais. Les gars, on va quand même essayer de les faire les 3 points ce soir.
Oh. Là pour le coup,
c'est quoi, ils ont même bugué en registre. Tu dis, ouais. C'est pas possible.
Il y a pas de jingle.
C'est pas possible.
À l'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel, c'est le plus important.
Je fais pas.
Il y a toujours les 3 points.
Mais c'est et tu peux ne pas importe le match.
Non, faire des programmes dans la vie. Ça s'appelle l'organisation.
Et je vais vous donner 6 points. 3 pour Daniel, 3 pour moi.
Allez, vas-y.
Non, t'es fou. Déjà, j'en ai du mal à en trouver 3. Le premier qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Quintero, parce qu'il change le match quand il rentre. Enfin, il change le match. Et en tout cas, il est décisif sur ce but forcément. Et puis dans ce qu'il a fait dans l'utilisation du ballon, il a pas été mauvais. Après, c'est honnêtement la différence entre les deux matchs, le match aller et ce match-là. Où au match aller, moi, je m'étais régalé, même techniquement, où il y avait eu des bonnes phases de jeu. Et là, ce soir, voilà, c'est d'une pauvreté sans nom techniquement. Et le troisième, je sais même pas. Honnêtement, le troisième, j'en sais rien.
Tu t'es régalé cet après-midi?
Non, puisque j'ai commenté la première ligue, Daniel. Donc j'ai pas vu le match de Ligue 1. Donc je vais même pas pouvoir parler de ça ce soir.
Le premier était plutôt pas mal.
Là, je te laisse, Daniel.
C'était assez intéressant. Le deuxième, nettement moins. Et dans le match de ce soir, oui, mais nous, en fait, on regarde ça de très loin. On n'est pas du tout dans... Effectivement, avec le regard neutre, objectif, on s'éclate pas vraiment devant ce match-là.
Ah oui, non, il n'y a pas la passion qu'on
le problème, les Argentins, c'est que, non seulement on n'a pas la passion, mais on comprend même pas ce que ressentent les joueurs. Et je pense que il y a très peu de joueurs qui ont pu avoir à un moment la pression que les 22 ont eu ce soir. Bah,
de toute manière, ça
c'était
très clair.
Tellement unique.
En seconde période, c'est ça.
Au-delà du trophée, voilà, il y a toute la,
avec
y a
tout
le contexte.
Ce qui s'est passé déjà, le contexte autour de ce match-là, j'ai jamais attendu un seul instant voir un grand match. Déjà, je pensais pas voir, parce qu'au final, il y a eu 4 buts.
Non, mais tu sais quoi, dans le contexte où River se retrouve en supériorité numérique, ou doit maîtriser un peu plus techniquement, parce que c'est ce que t'attends de River par rapport à Boca.
Dans ces conditions-là.
Mais je suis d'accord avec toi, la peur de perdre a pris le dessus sur l'idée de gagner.
À ce point que la peur de perdre, de toutes les implications d'un match pareil, de ce derby, après, David se mettait des coups, l'arbitre, il arrivait même plus vraiment à gérer, il a fini quand même par sortir.
Et tu crois que jouer ce match, justement, en Espagne, ça a accentué ce côté où si on rentre avec la défaite, on va prendre cher, ou alors de jouer là-bas, ça aurait été peu, par exemple pour Boca qui aurait été à l'extérieur, t'aurais peut-être eu moins cette peur parce que t'étais chez l'adversaire.
Cette finale depuis le début, elle transporte trop
de pression
de négative, choses, de pression, de pour que ce soit formidable. Déjà, le match aller était
il était pas mal le match.
Voilà, plutôt spectaculaire et c'était déjà bien.
C'était
mais le retour
match.
Là. Franchement, je m'attendais pas à autre chose.
Mais déjà,
qu'une
le match
pression
allait,
permanente.
Déjà, le match aller, même en termes de jeu, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien que ce qu'on a vu.
Ouais, c'est souvent des matchs
un peu tendus, très hachés, etc. Donc, ouais. On y reviendra tout à l'heure avec Jonathan McCarty qui nous rejoindra en fin d'after. On va débuter par Lille-Reims, tiens, justement, le premier match l'un des matchs de cet après-midi. Un partout entre les deux équipes. Oudin qui a marqué pour Reims à l'heure de jeu. Égalisation sur penalty en toute fin de match de Nicolas Pépé. Alors, un penalty d'ailleurs qui a beaucoup fait parler, notamment Guillaume, l'entraîneur du Stade de Reims, qui était assez furieux à la fin du match. Il estimait qu'il y avait une simulation, qu'il n'y avait pas eu de faute.
Bah, pas possible. Ça se discute plus, il y a le VAR.
Ah, oui.
Rien ne se discute.
Eh bah, si.
Je sais pas, moi j'en ai vu.
La mauvaise appréciation de
Lazare. Moi j'en ai vu également un dans Strasbourg-Caen. Je sais pas dans le quart ce qui se passe. Ouais. Je sais pas, mais le péno sur le Lillois, je le vois pas non plus. Mais on peut plus rien dire.
Bah,
non,
même à l'appréciation, tu reviens toujours à une appréciation d'un homme. Quoi.
Alors Lille qui arrache un nul.
Celui qui voit la vidéo ou au lieu de celui qui.
En l'occurrence sur Lille, il a même pas.
Il a fait confiance au gars du quart. Ouais.
Il lui a dit dans l'oreille.
Il l'a consulté.
Non, en fait, les mecs lui communiquent avec lui. Lui, après, il a la possibilité.
Il l'a vraiment. Mais est-ce que le gars lui a dit c'est bon, t'inquiète, il y a péno.
Ça a dû.
Bah, je sais pas.
Tu parlais après.
Normalement, quand ça parle, le mec met la main à l'oreille et il va voir. Il a pas le droit.
Il va pas forcément.
Non, il va pas forcément voir.
Il va voir. La consultation n'est pas obligatoire.
Ouais, si on lui dit, écoute, va voir les images parce que nous, on ne sait pas te dire.
Tu peux avoir le mec dans le quart qui lui dit c'est bon, mec, pas de problème.
Nous, on a vu, c'est sûr, il y a pénalité.
Daniel, à la Coupe du Monde, le cas,
c'est allé beaucoup trop vite. Ils ont même pas eu le temps. Ils ont même pas eu le temps de visionner les ralentis.
Daniel,
ils ont même pas eu le temps.
À la Coupe du Monde, le cas s'était posé. La FIFA avait même communiqué derrière. Il peut y avoir utilisation du VAR sans consultation de l'arbitre qui est sur le terrain. C'est-à-dire, en gros,
celui qui est dans le camion, il décide.
Et l'arbitre lui peut décider de prendre la décision de lui-même, l'arbitre.
Et c'est aberrant que ça soit passé comme ça parce que d'abord, il a pas visionné énormément de ralentis parce que très vite, l'arbitre, comment il s'appelle cet arbitre? C'est le Tellier, non? Il me semble.
Je sais pas.
Si, c'est le jeune branché, là.
Le Texier.
Le Texier,
ouais.
Et il a eu l'air de dire qu'il y avait absolument aucun doute, qu'il discutait même pas péno, machin.
Ou alors c'est quoi, c'est lui qui en live dit au quart j'ai pas besoin de vous, moi il y a pénalty.
C'est fort possible que ce soit ça, mais je trouve aberrant. À partir du moment où t'as le VAR, tu fais en sorte que ta décision elle soit sûre, parce que là franchement elle est très bizarre, sa décision sur le péno. Péno d'ailleurs très curieux avec le gardien de Reims, Mendy.
Il fait un sketch sur le côté,
monumental avant de venir se placer. pas normal non plus ça.
Bah, il a pris un jaune d'ailleurs.
Il a pris un jaune, un peu
d'intox.
Alors, mais bon, Lille s'en tire super bien.
Ouais, alors avec ce résultat, ils sont deuxième. Alors ils ont un match en plus que Montpellier et que Lyon. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop ça, une victoire sur les 7 derniers matchs. On va écouter Christophe Galtier, qui était très mécontent à la fin du match.
Ça joue pas bien du tout. Ça joue pas bien du tout, Lille.
La galette.
Quand on est à domicile, on doit faire le jeu. Évidemment, il y a une poche d'énergie supplémentaire, et là on a manqué de justesse technique, on a manqué de bons déplacements. Et associé à ce manque, avec un peu être en étant moins bien physiquement par rapport à ce que j'ai dit sur les deux matchs précédents, il y a eu aussi quand même de la suffisance. La suffisance, elle est liée à différents paramètres. Est-ce que mentalement, la fatigue fait que mentalement aussi, on avait. Je ne sais pas si on est moins envie, mais on était un peu suffisant. Et on a joué que 30 minutes.
Voilà, on avait réussi à choper Christophe Galtier dans les toilettes. Vous l'aurez
compris. Après, une des équipes qui est très embêtante, à jouer en ce moment, c'est Reims. J'ai pas vu le match après-midi, je vais pas en parler, mais en ce moment de jouer Reims, c'est embêtant parce que c'est très organisé.
Ils ont été très organisés derrière.
Je sais pas, voilà, peut-être qu'il a manqué sûrement quand on écoute en plus Daniel et l'entraîneur de Lille, il a manqué des choses aux Lillois, mais Reims en ce moment c'est chiant à jouer.
Ouais. Non mais que Reims effectivement soit une équipe, on l'a vu récemment même contre l'OM, c'est organisé, le bloc habituel, hein. Mais si t'es deuxième du championnat,
tu dois être capable de
trouver une solution. Moi ce que je vois à l'intérieur de ce match là, ce que j'ai vu également de la même façon dans le Marseille-Reims, c'est que notre niveau est vraiment pas bon en ce moment.
Le manque de...
Et si le deuxième de Ligue 1 il est à ce point emmerdé par une équipe de Reims et il ne trouve aucune solution, et dans le jeu il est d'une pauvreté terrible, parce que Lille c'est toujours pareil, si t'as pas trois espaces pour que les mecs cavalent
comme
des
dingues,
la profondeur,
ils n'ont aucun plan B, ils n'ont rien, leur jeu c'est considérablement appauvri. T'as Pépé qui a encore la tête hors de l'eau, mais les autres là, les cadors du début de saison, ils sont plus tellement dans le coup.
D'ailleurs, Bamba était pas titulaire. Il a fait en cours de match.
C'est pas la première fois. C'est récemment, il a perdu sa place de titulaire. J'ai également vu Ikoné très en dessous, avec des erreurs techniques énormissimes. Le jeu des Lillois aujourd'hui, il ressemblait à rien. Mais en fait, depuis le début de la saison, il n'a ressemblé qu'à une chose, c'est des accélérations, de la vitesse, ce qui peut être bien, hein, c'est un style. Mais il est beaucoup trop limité, ce style, pour qu'au bout d'un moment, ça ne s'effrite pas. Et d'ailleurs, là, la série de résultats récentes l'indique.
Comment était, je vais mal le dire, mais les Aron.
Bah, ouais. Il est sorti en cours de match. En fait, tu sens vraiment Gatti.
Ouais, mais avant qu'il sorte, en fait, comment il était.
Il n'a pas été génial, en fait. Ils ont eu du mal à exister. Si tu veux, Lille a surtout existé après avoir encaissé le but. Ils ont plus été dans la réaction que dans l'action.
D'accord.
Mais tu sens vraiment que Gatti, il a quand même du mal à ce poste-là particulièrement. C'est-à-dire, il tourne en permanence. C'est Rémy. Un coup c'est Ruy Font, un coup c'est Lien. Enfin, il a vraiment du mal à trouver cette pointe, hein, finalement, Christophe Galtier. On va accueillir Eric, qui est supporter du LOSC et qui nous a appelé au 32-16. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Eric.
Bon Eric, c'était pas fameux. Lille s'en sort pas mal, hein, finalement, avec ce match nul à domicile. Lille qui reste invaincu d'ailleurs à domicile. Ils sont pas passés loin ce coup-ci quand même. Hein.
Et je me mets à la place des supporters rémois, ils doivent être un peu déçus de. C'était une victoire qu'ils méritaient parce qu'ils ont fait un peu ce qu'il fallait. Ils ont su presser haut quand il fallait, empêcher de jouer, rester compact. Donc franchement, Reims, je suis un peu déçu pour eux. Mais bon, moi je suis supporter de Lille, donc je m'en tape. Mais c'est vrai qu'à Lille, moi ça fait plusieurs matchs que je vois des choses qui sont très inquiétantes. Le problème de la pointe, c'est vrai qu'il est intéressant parce que là, Loïc Rémy, il n'est pas dans le groupe. Et en fait, donc Léao, le soi-disant Mbappé portugais, en fait, il n'est pas bon du tout, ni au pied, ni de la tête, ni rien, ça m'inquiète. Et Ruy Fonte, sincèrement, hein, je me demande, enfin, on l'a pris certainement pour faire plaisir à son frère, parce que c'est un attaquant qui n'a aucune qualité, ni vitesse, ni déviation, ballon de la tête. Et donc, ouais, Lille, c'est pas terrible, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur match. C'est un peu ça.
Bah après, Ruy Font, il est surtout en mode, enfin, j'ai envie de dire physiquement, il est pas encore au top, quoi. Il a été blessé à un moment, il a accumulé les blessures. Tu vois, c'est vrai qu'il est pas au top en ce moment. Mais c'est plus un joueur de déviation, tu le vois, dans le jeu.
Touche pas trop la boutique quand même. Hein.
Ouais, fais gaffe. Parce que là, t'as claqué deux gâches déjà.
Là,
c'est qu'il y en a pas mal, ça fait beaucoup.
Là, il y a boutique hein, quand même. Hein.
Ouais, fais gaffe quand même.
Non, mais donc c'est un peu ça. Après, moi, quelque part, je me mets à la place des joueurs du LOS qui avaient peut-être une grosse envie il y a quelques temps, qui a un peu disparu parce que depuis le match du PSG, on n'a pas des résultats top. Et moi, je me dis quelque part, parce que peut-être qu'on va parler de choses que du jeu, mais je me dis être deuxième, très bien, mais à quoi bon ? À quoi bon ? Enfin, ils doivent se dire à quoi ça va nous servir ? À rien du tout.
Je suis pas sûr que les joueurs pensent comme ça quand même.
Ah, les joueurs, je sais pas, mais globalement, c'est la vérité. Moi, je le dis depuis le début de la saison. Quand on a un tel projet de club, ce sera bon pour personne, ni pour notre Ligue 1, ni pour...
Les joueurs
vont se retrouver à jouer la Ligue des Champions pour rien, puisque de toute façon, le but n'est pas la performance sportive, mais la vente de joueurs. Donc, moi, quand je dis ça, on veut pas tellement me comprendre, et on croit que je dis ça parce que je sais même pas pourquoi j'en voudrais aux Lillois, d'ailleurs. Enfin, bref, j'en veux plus à ce genre de politique sportive-là. Et au final, ils vont mieux pour notre football que Lyon y retourne, que Marseille y aille. Malheureusement, on est obligé de penser ça si on veut que notre Ligue 1 avance.
Mais par contre, je ne pense pas que les joueurs lillois pensent comme ça. Honnêtement, je ne veux pas croire que là, en ce moment, les joueurs paraissent un peu éboussés ou paraissent en faire moins parce qu'ils ne veulent pas y aller.
Plus au club.
Ouais, mais
que l'idée est qu'il n'y soit plus.
Alors je vais dire même si vous avez une idée très noircie du tableau,
pas du tout noire.
Non, mais pensez juste à.
Elle est réelle. La moitié des joueurs.
Avec les joueurs, non, je pense pas, honnêtement. Attends. Moi, je vois pas un joueur qui refuserait d'aller de prendre la deuxième place. De façon très pragmatique.
Mais un mec comme Pépé, pour moi, je trouve que ça fait 3 semaines, il joue comme s'il est déjà en Angleterre. Il joue bien, hein.
Ouais, s'il part cet hiver, tu veux dire. Et qu'il partirait dès janvier, tu veux dire.
Je sais pas. Pour moi, il a déjà.
Parce que je veux dire de façon très pragmatique. Sinon, tu raisonnes en termes de primes sur le classement, etc. Ouais, je peux dire que tous les joueurs ont quelque chose d'énorme à gagner, même à Lille, s'ils sont deuxième au lieu de sixième.
Il joue bien, c'est le meilleur.
Et puis, je veux pas croire qu'un joueur en ce moment en Ligue 1 qui est deuxième ne veut pas continuer à gagner pour rester deuxième. Non, honnêtement, je veux pas le croire.
Tu veux pas le croire, peut-être. Et je sais pas si je le crois. Je sais juste que dans la tête d'un paquet de joueurs, la finalité est de ne pas rester. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le projet, ce n'est pas l'idée. Donc quand tu t'inscris
pas, dans un
projet collectif avec une aventure, tu sais bien quoi.
Ouais, après moi je pourrais traverser le truc si justement c'est pas l'objectif demandé
de tu sais qu'elle va se barrer, tu la verras pas, tu vas pas parler de d'acheter un appart avec elle.
Bah si vraiment tu veux la séduire.
Non, tu sais que non.
Bah non, mais si tu peux la mitonner. Ah bah oui, mais ça existe aussi dans le foot, ça.
Non, et puis la métaphore est pas bonne, Daniel. Moi, je veux dire, la métaphore, elle serait bonne si c'est avant d'avoir eu la nana, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes tant que t'as encore une chance de l'avoir. Et ben moi, je pense que les Lillois.
Vous êtes pas obligé
deuxième.
D'aller si loin.
Bah, moi je veux pas croire que des joueurs aujourd'hui qui soient deuxième n'aient pas envie de continuer à gagner pour
continuer à aller se montrer.
Oui, mais se montrer, mais c'est pas incompatible, justement. Puis au contraire, quand t'es deuxième d'un championnat, tu te montres encore plus.
Je dis pas qu'ils vont pas vouloir arriver deuxième. C'est pas ça que j'ai dit.
Ah, c'est j'ai pas compris.
Mais
on est parti. Non, on est parti d'un avis de d'Eric.
Mais Eric dit ça sert à rien qu'on y aille l'année prochaine de toute
façon. Non, monsieur. Alors on va faire. On va revenir un peu en arrière. Eric, tu me dis si je me trompe. T'as bien dit. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que les joueurs sur le terrain n'ont quasiment plus envie de se demander à quoi ça va leur servir d'être deuxième. C'est ça.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que les mecs disent de toute façon. Enfin, ils ont pas envie de jouer. Enfin, ils ont pas spécialement envie de jouer en équipe parce que si tu veux être deuxième, il faut que tu saches faire des matchs moches et arriver à un match contre un en disant on va les déglinguer. C'est ça le truc. Et en fait, le problème, c'est que je pense que certains joueurs se disent, tu sais, quand au début il y a la présentation avec le truc du LOSC, ils regardent. Bon, bah c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scouts en tribune. Clairement, on m'a expliqué que je vais pas faire 4-5 ans ici. Donc voilà. Donc du coup, ça va des fois courir moins et moins jouer en équipe. Il y a plein de joueurs qui sont comme ça. Regarde, par exemple, c'est vrai, Nicolas Pépé, par exemple, mais il est très bon, mais sans lui, on meurt. Mais regarde, l'investissement dans le jeu qu'il a, il a pas spécialement envie de défendre, le repli défensif, il est pas là, alors qu'au début...
Mais oui, je veux bien,
Eric, moi je veux bien, mais quand tu me parles de scouts dans les tribunes et de joueurs qui courent moins sur le terrain, du coup, parce qu'il y a des scouts, alors là, je peux te dire que c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que peux te dire que même en Angleterre, un joueur comme Nicolas Pépé, et notamment en Angleterre, les stats sont étudiés, et que si c'est un joueur qui, à un moment donné... Attends, laisse-moi finir, Daniel. Un attaquant, aussi bon soit-il, qui ne défend pas... Voilà, juste ce qu'il faut défendre déjà en France, je peux te dire que ça va pas partir au même endroit en Angleterre.
Le mec qui se dit quand il sera dans l'Angleterre, on va tout revisser.
Non, moi je reçois. Non, Daniel, c'est pas toujours ça.
Un joueur qui ne fait plus les efforts.
Oui, mais c'est... tu veux que je dise Daniel, un joueur qui ne fait plus les efforts défensivement en France, il va partir en Angleterre, mais il partira pas au même endroit que celui qui l'est fait.
Il est déjà fiché. Le mec changeront pas d'avis.
Si, bien sûr que si. Bien sûr que si.
Donc il va pas partir.
Pour certains clubs, ils changeront d'avis. Je te dis qu'ils partiront ailleurs, ces joueurs-là.
Peut-être.
Mais c'est s'en foutent d'où il part, Pierre. C'est pas le
bâtard. Oui, mais le joueur ne doit pas s'en foutre.
Il part.
Oui, mais le joueur ne doit pas s'en foutre, Daniel. Le joueur, il s'en fout pas de partir. Je te dis une connerie. À Manchester ou à Wolverhampton.
Bah oui.
On est d'accord, quand même.
Oui, ça joue, ça, Daniel.
Et en même temps, si tu l'avertis, alors si lui, il en a pas conscience, normalement, les gens qui l'entourent l'avertissent que ça marche un peu comme ça. Donc c'est pour ça que l'argument des scouts dans la tribune ou des joueurs qui sont à repérer et qui vont partir, j'ai un peu du mal à le recevoir.
Je pense que ce soit Manchester, Wolverhampton et tout ça, l'idée est faite sur ce qu'est capable de faire ce joueur.
De toute manière, oui, qu'il parte, on le sait, oui, ça va finir comme ça.
Si pendant les 6 prochains mois, il est mauvais, ça ne changera rien du tout.
Mais bien sûr, ça changera des choses.
Attends, t'as pas vu des clubs qui recrutaient des joueurs
Il partira, mais c'est votre idée, j'ai la mienne. On peut passer à autre chose.
Voilà. On peut passer à autre chose, on a le droit de parler aussi, non?
Non, mais.
À partir du moment où t'as ton idée, j'ai la mienne et on n'est pas d'accord. On va pas en parler jusqu'à 4h du mat, il est bon.
Mais c'est bon, c'est pas parce que t'as dit que
c'était
pas
arrêté. Et derrière, Nico, tu ne vas pas me convaincre et je ne vais pas te convaincre. À quoi ça sert de débat?
Mais derrière, on a le Strasbourg quand? Je vais dire, vaut mieux parler un peu de
chose. Attends, on est en train de
parler. Vas-y, continue alors. Bon, mais alors pendant 6 mois, qu'est-ce qu'il va faire? T'as ton idée, j'ai la mienne, point. Le débat est inutile quand tu ne vas pas convaincre l'autre.
On n'est pas là pour convaincre, on échange des arguments. C'est
mais
pas forcément
on les a échangés, c'est fini.
Oh, okay.
Il faut savoir mettre fin au débat, sinon tu t'en sors jamais. On va savoir passer à autre chose. Tu remets la page.
Quoi, Eric, tu vas pas foutre la merde aussi, non?
Attendez, écoutez-moi, je voulais juste dire... Bon, moi je suis d'accord, ok... bon, admettons que les joueurs ne soient pas hyper carriéristes, tu vois. Admettons qu'ils soient là... Et ils veulent.
Oui, les joueurs pas carriéristes, oui, là, il faut vraiment admettre. Hein.
Mais bon, personne n'a dit ça en plus.
C'est justement l'inverse, Eric. C'est s'ils sont carriéristes, moi, je pense qu'ils se donnent encore plus. Alors, peut-être pas dans le bon sens, c'est-à-dire peut-être que, effectivement, parfois, tu oublies un petit peu ce qu'il faut faire avec des notions collectives, au détriment de plutôt jouer un petit peu individuel. Mais faire moins d'efforts ou être moins bon ou ne pas considérer cette deuxième place qui est plutôt très bonne pour lui.
Mais Eric, où tu voulais en venir?
J'ai du mal à le comprendre.
Bah alors, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui explique, en fait, ces courants alternatifs de joueurs. En fait, on a un joueur qui va prendre le contrôle du jeu, va se donner sur un match, il fonce, il court comme des malades. On parle de Pépé là, mais je pense que le vrai joueur, le vrai problème du LOSC, c'est Jonathan Ikoné. Il est exceptionnel et excellent, ce mec. Il a beaucoup de talent et des fois, en fait, il sert à rien du tout. Comme aujourd'hui, par exemple. Moi, je me demande
il est tout simplement très irrégulier. Voilà.
Ouais, je pense aussi.
Ils sont nombreux à être irréguliers. Ils sont nombreux à être pas bons. Comment ça
ouais, mais c'est ce qui te fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur.
S'il était si fort que ça, tu vois, il est formé au PSG, tout le monde le connaît depuis des années. Il va à Montpellier, il casse pas la baraque. Il est à Lille, il fait un bon début de saison. Bah
c'est peut-être ce qui lui reste.
On fera le bilan d'ici la fin de la saison. Je suis pas sûr que ce soit.
Eric a raison.
De l'année,
hein. Il connaît avec ses qualités qui devient régulier. Pardon, ça fait un très bon joueur.
Avec des sites, un paquet de joueurs.
C'est pas impossible qu'un jour il fasse régulier avec. Il est pas vieux. Hein. Il connaît peut-être qu'il va prendre en maturité. Peut-être qu'il va apprendre à travailler au quotidien mieux pour être plus régulier, etc., etc. C'est pas interdit de le penser. J'espère pour lui. Mais finalement, Eric, tu vois, on en revient un peu au même. Un joueur comme Ikoné, qui est en ce moment irrégulier, comme tu le vois toi en tant que supporter de Lille, il a rien à gagner à être irrégulier. T'es bien d'accord. S'il était régulier, mais un joueur comme Ikoné avec ses qualités,
ça partirait très facilement. C'est 80% des joueurs en Ligue 1.
C'est pour ça que l'argument de le faire sciemment, j'arrive pas à le recevoir.
Jeudi soir, vous n'étiez pas là, on en a parlé là, c'est le grand problème de notre Ligue 1, c'est l'irrégularité, c'est des mecs qui sont bons par à-coup. Parce que la plupart cherchent avant tout à se faire remarquer.
Pour finir, Eric.
Pour partir.
Le mot de la fin, Eric.
Pour finir, je pense pas que les mecs sont sciemment mauvais, c'est pas du tout ça.
Ah bah non.
Je pense qu'ils ont des hauts et des bas de motivation. Parce que tout simplement, ce ne sont pas des champions ni des mecs programmés pour gagner. Ils sont pas programmés pour cette deuxième place, pour aller chercher des 1-0 des fois à l'extérieur pas terrible, ou d'éclater les clubs plus faibles. Ils sont pas là pour ça. Et donc, du coup, fatalement, ils vont pas aller chercher les résultats à certains moments, puisque de toute façon, le projet, c'est pas ça. Je vais juste terminer en disant la preuve, c'est qu'on avait un joueur au poste d'Ikoné qui s'appelait Yacine Benzia, qui était plutôt un mec qui était un vrai compétiteur, qui était content, qui mouillait le maillot et tout ça. Là, on a quelque chose qui est un peu plus flou, avec des joueurs qui s'en foutent un peu, tu gagnes, tu gagnes pas. De toute façon, les deuxièmes, c'est exceptionnel, mais quelle saison, merci beaucoup pour tout ça. Je dis pas ça, je dis juste que je pense que nous, on n'est pas programmés pour rester là, et que de toute façon, si on a resté deuxième, on va se vider de notre équipe l'année prochaine, on va se prendre des grosses branlées en Ligue des Champions. Donc, au final.
Ça, de toute manière, Eric, j'ai envie de te dire qu'avec la situation économique de Lille, quoi qu'il arrive, que tu sois deuxième ou sixième, tu vas être vidé et puis tes joueurs vont pas.
Ouais, merci, en Ligue des Champions, l'actionnaire est plus content, il y a du blé à prendre.
Ah, ça c'est sûr. La différence,
merci,
c'est ça, c'est qu'on prendra un petit peu
bientôt,
le côté.
Ciao, Eric. Dans quelques instants, on revient sur un autre match nul, une autre affiche de cette 17e journée de Ligue 1, hein, le 2-2 entre Strasbourg et Caen, supporters du Racing, supporters normands. On vous attend au 32-16 avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, on vous rappelle que River vient de remporter la finale de la Copa Libertadores. Succès 3-1 après prolongation face à Boca ce soir. Match retour qui s'est donc joué à la prolongation. Un titre de plus pour Gallardo avec River qui avait déjà remporté cette Copa Libertadores en 2015 avec le club des Galinas. Match de Ligue 1.
Pareil que tous les Rennais étaient pour River.
Bah Quintero. Il est comme un fou, Jérôme Thomas.
Bah oui,
comme un ouf.
C'est un joueur.
C'est lui qui marque d'ailleurs le but du 2-1.
C'est un joueur qu'ils ont eu sans avoir.
Ouais. Bah, il a eu des gros problèmes d'adaptation. Gros est le mot d'ailleurs. Plus que problème.
Ça peut-être il fallait le faire jouer une demi-heure par match.
On va savoir.
2-2 c'est de la gestion, hein, faut savoir le faire.
Ouais. Bah, après, il faut qu'il s'adapte aussi.
Après, il y a beaucoup de Sud-Américains qui ont pas toujours, qui sont beaux quand ils sont là-bas et moins beaux quand ils viennent là.
Strasbourg-Caen, les gars, cet après-midi, deux partout entre les deux équipes. Premier but de Pablo Martinez à la 5e. Ça a été un match un peu fou d'ailleurs. Fajr qui a égalisé, Motiba qui a redonné l'avantage à Strasbourg. Il y avait 2-1 pour Strasbourg après 23 minutes de jeu. Et c'est Kawi en toute fin de match qui a permis à Caen d'arracher un nul. Alors Caen qui avance plus qu'au ralenti. Ils sont pas bien. Caen, ils sont 18e. Le Racing est 8e. Sont les deux équipes de Ligue 1 qui comptent le plus de matchs nuls. 8 matchs nuls en 16 journées pour ces deux formations, alors qu'ils ne sont pas classés au même endroit, ça c'est clair. T'as bien aimé ce match, toi, Daniel ?
C'était plutôt vivant. Te dire qu'a priori, je ne l'aurais peut-être pas trop regardé.
S'il y avait eu d'autres matchs
comme ça.
Mais là.
Avec celui-là.
Vu que le week-end, voilà. Et je pense, comme Thierry Loret qui l'a dit, qu'ils se sont mis dedans tout seuls, les Strasbourgeois, parce qu'ils jouent mieux.
Il y a des erreurs individuelles qui leur coûtent cher, là.
C'est pour ça ils se sont mis dedans tout seuls, parce qu'ils jouent mieux, ils proposent plus de choses, c'est plus agréable, ça n'a rien à voir avec Caen. Caen, c'est maintien au mieux, quoi. Et c'est peut-être même Ligue 2. Strasbourg, c'est autre chose. Mais voilà, je pense qu'ils ont vraiment gâché ce match. Ils doivent gagner sans problème, quoi.
Ils sont pas mal, hein, Strasbourg, là, vraiment. Mais
Strasbourg, de toute façon, c'est l'équipe chouchou de la Ligue 1.
Ouais, ils jouent bien.
L'équipe chouchou,
tout le monde spectaculaire.
Tout le monde aime bien ça. Je sais pas que c'est spectaculaire.
Ça joue pas mal. T'as eu des beaux matchs, quand même.
Oui, mais c'est pas que
c'est Daniel, c'est que c'est vivant. Ça joue.
C'est plus que c'est attachant. Et parce que ça se donne.
T'as cette Meno aussi qui est belle aussi.
Parce qu'il y a du monde. Parce que c'est un peu le club chouchou de tout le monde en Ligue 1. Voilà, ça fait un an que ça dure. Un petit peu plus maintenant, un an et demi que ça dure. C'est le club qui plaît à tout le monde. C'est agréable. Tu sens que c'est coaché, c'est drivé, c'est managé. Voilà, c'est plutôt sympa, ouais.
Pierre, toi qui connais bien ce club.
Oui, non, c'est ça. Après t'en as d'autres qui sont bien drivés, voilà, sportivement en France. Mais t'as ce côté, comme l'a dit Daniel, t'as ce côté cote de popularité qui est bonne en France. Mais moi, je pense que la Méno y participe énormément, ouais. Parce que t'as à chaque fois de très très bonnes ambiances. Il y a eu quelques résultats et c'est pour ça qu'en France il y a une petite cote de popularité, notamment cette victoire contre le Paris Saint-Germain l'année dernière qui a plu à tout le monde. Ouais. Là, ils les accrochent encore. Donc t'as ce petit côté là.
Il y a eu plein de matchs dans la saison. Il y a eu celui de fin de saison dans le multiplex là face à.
Oui, le scénario
qui est complètement
dingue. Mais il y a tout eu. Même leur montée. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Voilà, leur montée est extraordinaire.
On peut même remonter au temps du national. Hein. C'était déjà complètement dingue, il y a 30 000 personnes à la Méno.
Exactement, c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a une cote de popularité. Ce coup franc de Lénard, toi tu parles, Daniel, sur le dernier match, voilà, contre Lyon. Enfin voilà, il y a cette petite cote de. Alors après, pour en revenir là au match, je crois qu'ils peuvent effectivement s'en mordre les cacahuètes parce que ils doivent le gagner ce match. Ils doivent le gagner. Ils doivent pas faire les erreurs qu'ils font défensives sur les buts. Voilà, mais c'est comme ça. Tu les payes cash les erreurs en Ligue 1 aussi.
On va accueillir Mathieu, supporter de Strasbourg, qui est en direct avec nous dans l'after. Il a fait le 32-16 et il est là, Mathieu. Salut Mathieu.
Salut les gars. Salut Nico. Salut toute l'équipe.
Est-ce que ça te plaît d'être supporter du club chouchou de la Ligue 1?
Qu'est-ce que ça me fait d'être supporter? C'est une grande fierté. Après, je sais pas si c'est le club chouchou, mais en tout cas,
si, c'est le club chouchou. T'as pas de mec qui aime pas Strasbourg.
Moi, je pense que t'en as quand même.
Vous n'entendez que des choses positives quand même.
J'ai des potes qui sont de Paris, ils aiment pas Racing.
Comment ils expliquent ça, les mecs, d'ailleurs?
Comment on peut ne pas, pourquoi t'aimes pas Strasbourg? Ça sert à quoi de pas aimer Strasbourg?
Comment ils t'expliquent ça, tes potes?
Non, c'est pas qu'ils aiment pas. C'est que, on a toujours connu par le passé, par exemple, des Strasbourg-Paris qui étaient assez chauds à la Méno. Quand il y avait encore des supporters ultra qui se déplaçaient, notamment le Cop Boulogne, hein, qui venait encore à l'époque, il y avait une espèce de rivalité de supporterisme qui était un peu exacerbée à cette époque.
Ça date quand même un peu maintenant.
Mais voilà.
Oui, parce que même moi à l'époque où je joue à Strasbourg, donc 2000, si je me souviens bien, 2007-2009, je crois, ça existe déjà beaucoup moins, ça.
Ouais, beaucoup moins. Strasbourg, à un moment, ça a été un peu une succursale. Les Acer, Nouma, étaient allés là-bas aussi.
Ouais, c'est bien avant ça.
Daniel Echter.
Oui.
C'est encore un deuxième club après encore plus le PSG.
Même Claude Leroy, d'ailleurs, fait les deux clubs.
Ouais, mais Claude Leroy, il n'est pas franchement assimilé PSG, quoi. Il a été de passage. Alors que les
il n'est pas franchement assimilé Racing non plus, parce que ça ne s'est pas très bien terminé. Ouais. Ouais. Dire. Donc. Oui, Mathieu, pardon.
Pardon, Mathieu.
Non, pour revenir au match aujourd'hui, ça a été une grande déception. Hein. Alors on va faire un arrêt sur image parce que la saison pour l'instant jusqu'à présent du Racing est plus que correcte. Hein. À la 8e place, on est en progression par rapport à l'année dernière. Mais si on fait un arrêt sur image sur ce qui s'est passé cet après-midi, clairement, je trouve qu'on a gâché notre semaine. On a gâché notre semaine parce que tu vas t'imposer à Rennes 4-1. Rennes qui derrière enchaîne deux matchs de victoire. Rennes qui sur le papier est une équipe qui a quand même de l'allure. C'est bien pour preuve qu'il y a un problème de gestion de cette équipe rennaise. Donc ça donne encore plus de valeur à notre victoire à ce moment-là, là-bas la semaine avant. Tu fais un match nul. Certes, dans le jeu, Daniel avait un petit peu dit que c'était un match pourri. Moi, je t'avais trouvé un petit peu difficile. C'est vrai qu'en termes de qualité de jeu,
Tu t'en tires bien avec le match nul contre le PSG. C'est bien de prendre un point.
On n'a pas montré grand-chose, mais au final, voilà, on s'est battu avec nos armes. Et tu prends un point alors que tu t'attendais peut-être à prendre un 3-4-0. Moi, je pensais pas qu'on allait gagner.
Bah donc, c'est bien de l'avoir pris. Et aujourd'hui, tu dois finir la semaine comme il faut en battant Reims.
Exactement. Et tu gâches tout. Pour moi, tu gâches toute la semaine. On n'a pas capitalisé, en fait, cette semaine.
Gâcher, c'est un bien grand mot. T'as gâché aujourd'hui. Mais oui, je comprends que t'aies des petits regrets. C'est vrai, c'est possible d'avoir ça.
Chronologiquement, les événements de la semaine et les matchs qui se sont enchaînés, c'est vraiment dommage de pas battre Caen parce que quelque part c'est l'équipe qui t'est servie sur un plateau, ça fait 4 fois que tu gagnes pas à la Méno.
Ah, et puis tu fais carton plein de ce que tu pouvais faire honnêtement en 3 matchs. Quand tu prends Rennes, Paris et Caen.
Parce que pour moi, ce soir, si tu fais carton plein, tu dois t'imposer.
Oui, c'est ça. Si tu gagnes ce soir contre Caen, tu prends 7 points sur 9, c'est ce que tu pouvais faire de mieux dans ces trois matchs.
Exactement. Et puis Caen, ils te sont, sans vouloir, servis sur un plateau ce soir. Clairement, je trouve cette équipe relativement faible. On n'a pas été. Et si je peux pointer une faiblesse cette année du Racing, ça me fait un petit peu mal parce que j'aime pas trop pointer personnellement les joueurs, mais il y a un joueur qui moi me plaît pas depuis le début de saison, j'espère qu'il me fera mentir en deuxième partie de saison, c'est Stefan Mitrovic, qui a été trop souvent depuis le début de la saison à l'origine de nombreuses erreurs personnelles qui souvent ont débouché sur des buts adverses. Et là clairement à son niveau, quand tu as le brassard de capitaine, quand tu es patron de cette défense du Racing, tu n'as pas le droit de faire cette relance, enfin, je dirais plutôt cette passe en retrait à Kawi. Non, techniquement, tu as le droit d'attendre autre chose de ce joueur, et même Kenny Lala va le voir, il lui dit mais qu'est-ce que t'as foutu, qu'est-ce que t'as fait. C'est, pour moi, il y a une grosse erreur et c'est dommage, et j'espère qu'on arrivera à corriger le tir. C'est des équipes qui te sont inférieures. Tu c'est comme un attaquant, tu dois être tueur devant le but. Ben c'est pareil, on doit être tueur à la méno.
Et Mathieu, alors je te rejoins complètement. Je trouve que c'est pas effectivement l'assurance tout risque derrière notre ami Mitrovic. Mais si tu veux voir le verre à moitié plein, Strasbourg ne perd pas depuis très longtemps.
Ils ont une défaite en 11 matchs.
Ouais, Strasbourg reste quand même solide. Alors parfois oui, tu il y a des résultats du coup, tu pourrais prendre 3
Strasbourg
points
au lieu de faire un l'OM nul. Cette année.
Mais ils ont 8 nuls.
Là ils sont sur une série de matchs en défaite. Si tu élimines la défaite de Nîmes, assez impressionnant.
Une défaite en 11 matchs sur les 11 derniers matchs.
Mais ça dit
Mathieu, tu parles du poste de défenseur, je sais pas ce que t'en penses. Moi j'ai l'impression que c'est un problème au Racing depuis déjà pas mal de saisons, mais même en Ligue 2, même en National déjà. Il y a toujours eu un problème en défense au Racing ces dernières saisons.
Bah, l'année dernière, c'était la défense, si on peut dire qu'on avait une défense, Nico. L'année dernière, c'était la passoire de la Ligue 1. Hein.
L'année dernière, avant, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu montes déjà de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, c'est quand même relativement solide.
J'ai souvenir en National.
Il y a des mecs qui étaient un peu limités quand même.
Oui, après, ça restait des joueurs en National à l'époque. Encore qu'il y en a qui ont continué à jouer au-dessus après. Mais tu montes pas sans être un minimum solide quand même.
Attention Pierre, quand tu montes de Ligue 2 à Ligue 1, si vous regardez les statistiques, on monte avec l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 2. Hein.
Et tu marques beaucoup de buts.
C'est juste parce qu'on a une attaque, c'est parce qu'on marque beaucoup de buts qu'on monte, mais ça fait quand même trois ans maintenant qu'on a des problèmes à stabiliser sa défense.
Tu peux alors, faire des raisons bétonnées alors, c'est possible
mais,
ça.
Mais c'est vrai que cette saison, par exemple, moi, à titre personnel, quand j'ai une compo qui tombe, je suis beaucoup plus rassuré quand c'est Koné qui est en patron de la défense avec Cassie et Martinez qui l'entourent dans la défense centrale que quand il y a Mitrovic. Et Mitrovic, c'est un petit peu un choix politique que de le mettre en défense centrale et de le mettre capitaine de cette équipe. J'ai l'impression que c'est le plus gros salaire du VCR. T'es un peu obligé de le faire comme ça. Mais pour moi, il est en dessous du rendement qu'il devrait avoir compte tenu du prix que t'as mis au départ sur ce joueur-là.
Ah, d'accord.
C'est un point de progression sur lequel il faut progresser là-dessus.
Ouais.
Même Martinez, hein.
Oui, même Martinez.
Il y a des
aussi,
mecs qui ont quand même fait l'épopée, hein.
Bah oui.
La montée, etc. Et qui sont là depuis le début. Hein. Après, t'as des vrais bons joueurs aussi, t'as des vrais bons coups. Moi, Motiba, je trouve que c'est une super
pioche. Ouais. Cassie, monsieur. Anthony Cassie.
Ouais, moi, je l'ai vu arriver avec les jeunes, c'est costaud.
Il a fait un match cet après-midi, je veux pas exagérer, mais il a été stratosphérique. Le jeune Cassie, il est plus qu'une alternative. Il a fait un match comme étant un pilier. Et en plus, il est capable de jouer sur les deux côtés de la défense, hein, dans cette formation en 3-5-2 ou 5-3-2, ça dépend comment on anime le dispositif. À chaque fois que Thierry Loré lui donne du temps de jeu, il répond présent. Il est polyvalent. Il est capable de jouer dans l'axe de la défense comme sur les deux côtés de cette défense.
C'est un vrai bon joueur, t'as raison.
Donc ouais, c'est un super joueur. Il y a beaucoup de points positifs, mais c'est vrai que ce soir, moi, je suis très déçu. Je trouve que c'est du gâchis que de pas avoir pris ces deux points supplémentaires contre Caen. Maintenant, voilà, tout n'est pas acheté, mais il faudra éviter de renouveler ce genre d'erreur pour pas pisser dans la deuxième partie de tableau. Pour l'instant, t'es bien à la 8e place, mais on sait aussi que ça peut aller très vite. Que de pas capitaliser ce genre de match-là, bah tu peux aussi très vite glisser et puis te mettre dans le dur sur la fin de saison, ce serait dommage parce que là on a une marge, on pourrait aller chercher le maintien beaucoup plus tôt.
Merci Mathieu d'avoir été avec nous.
Ciao. Eh ben, merci à
bonne
vous
soirée,
les gars.
Bonne soirée à toi Mathieu. Dans quelques instants, on se fait les infos du jour, des nouvelles de Neymar, des nouvelles de Ganso, des nouvelles de Dembélé également, et puis on aura des déclarations de Gianni Infantino aussi. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, on vous rappelle que River vient de remporter la finale de la Copa Libertadores, succès 3-1 après prolongation face à Boca. River qui était mené 1-0, mais les hommes de Gallardo qui se sont imposés finalement 3-1, avec notamment un but en prolongation de Quintero, l'ancien joueur du Stade Rennais. Quelques infos du jour également. On est à J-2 avant le match Étoile Rouge de Belgrade Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Match à suivre, bien sûr, sur RMC Sport. Sachez que Neymar ne s'est pas entraîné. Alors, il n'a pas pris part à la séance collective. Il est touché aux adducteurs. Il a travaillé en salle avec un kiné. Le staff parisien, alors qu'il est en interne, pas trop inquiet quant à sa participation à Belgrade pour ce match très important pour le PSG. Pierre.
Si personne n'est inquiet, personne n'est inquiet.
Ouais.
Après, voilà. Tu penses qu'il doit jouer, toi?
Déjà, qu'il doit jouer. Il va jouer. Personne n'est inquiet. Effectivement, le staff, enfin, en tout cas, c'est le son qu'on a de l'extérieur. C'est que le staff médical et le staff technique n'est pas inquiet. Moi, je pense que c'est un principe de précaution. Tu le ménages jusqu'au bout. Tu le laisses récupérer au maximum, pour que cette petite blessure survenue à Bordeaux, si je me trompe pas, soit complètement terminée. Voilà. Pourquoi prendre un risque sur une séance? Voilà. Il y a eu assez de matchs, on n'est pas dans une période de préparation, il y a eu assez de matchs pour qu'il ait le rythme suffisant pour jouer à Belgrade, même s'il a loupé une semaine et demie d'entraînement avant. C'est pas ce qui me paraît le plus gênant, honnêtement.
Voilà, principe de précaution donc. Voilà.
Mais écoute, si personne n'est inquiet, on n'a pas de raison de s'inquiéter.
Tout le monde, ouais. Tout va bien.
Voilà.
Ganso était absent hier du groupe amiennois à Guingamp, le pote de Neymar justement. Alors le Brésilien qui a indiqué à Christophe Pelissier, son entraîneur, qu'il n'était pas en condition de jouer à Guingamp. Bernard Joannin, le président d'Amiens, s'est exprimé. Paolo a un mal-être et il a décidé de ne pas faire le déplacement à Guingamp, a-t-il déclaré. Avec le coach Christophe Pelissier, mon conseiller John Williams et ses agents, on va dans les prochains jours l'écouter, lui demander des explications, sa position et ce qu'il veut faire. Depuis le début de saison, le comportement de Ganso est exemplaire. Voilà ce qu'a déclaré le président d'Amiens. Ça sent pas très bon quand même. Hein, c'est...
Non, mais moi, honnêtement, ce que j'en ai eu comme écho, pour en parler, c'est que c'est effectivement dans le comportement exemplaire. Il y a aucun problème dans le travail, dans l'investissement, etc. Mais qu'il a effectivement un problème d'adaptation. Il se sent pas bien, voilà. Et ça peut arriver. C'est comme ça. Après, c'est un joueur pour qui
s'adapte pas à Amiens.
Ouais, pour qui c'est arrivé.
Parce que c'est vraiment surprenant.
C'était pas le pari plus facile.
C'était un sacré pari.
Mais oui, mais enfin, si ça avait marché, ça aurait été bon. Mais apparemment, ça marche pas.
Avec qui tu veux qu'il échange des ballons, quoi.
Après, au-delà de ça,
je pense même pas que ce soit ça, Daniel. C'est vraiment individuel. Bon, c'est son ressenti à lui, quoi.
Déjà, s'adapter culturellement, ça doit pas être simple.
Ouais.
Hein, tu vois, Ganso en Picardie, ça me paraît un peu. Et après, footballistiquement.
C'est le nom d'un film.
Après, footballistiquement, ça doit pas non plus être facile. Je les vois pas vraiment tous sur la même longueur d'onde. C'est un pari délicat. Peut-être qu'il faut que le pari s'arrête et que Ganso aille essayer de jouer ailleurs. Et de toute façon, visiblement, Amiens n'a pas l'air d'avoir trop besoin de lui.
Oui, c'est vrai qu'il a 5 titularisations depuis le début de saison.
Oui, c'est pas beaucoup.
Alors, pas beaucoup besoin de lui. Ils sont quand même pas au top non plus au classement. Hein. Amiens, ils sont 17e. Hein. Ils ont 2 points d'avance sur Caen.
Ouais, ouais.
Donc, ils auraient besoin de lui, justement.
Non, mais ils auraient besoin de lui.
Un bon Ganso.
S'il était bien.
C'est lui qui doit faire le jeu. C'est lui qui doit s'imposer dans un rôle de 10. Est-ce qu'il a vraiment la forme pour le faire? Je sais pas, ça se trouve, on peut pas dire. Mais
honnêtement,
footballistiquement, je vois pas comment il peut s'intégrer dans un club comme Amiens, quoi.
Ouais, et puis le coach, s'il a un bon joueur de ballon qui fait la différence, honnêtement, c'est pas le coach qui va pas le mettre. C'est un coach qui aime bien ça normalement.
Ouais, mais sauf qu'après autour, il faut que ce soit sur le même rythme et le même tempo.
Je comprends pas pourquoi tu dis ça parce que ces dernières années, il a pas eu un niveau dinguissime non plus à Séville, il jouait pas.
Mais je te dis pas qu'il a un niveau dingue. Déjà donc, il a pas son vrai niveau. Le niveau qu'il a, c'est un type de joueur qui doit pas réellement coller avec l'effectif d'Amiens. Donc si en plus, il est pas au top, que à son niveau à lui, son style footballistique colle pas avec les autres, ça fait deux problèmes.
Autre information également. Alors, vous savez qu'hier, le Barça s'est imposé 4-0 face à l'Espagnol. Ousmane Dembélé a marqué, il a été passeur décisif. Oui, mais ce matin, il est arrivé avec 2 heures de retard à l'entraînement. C'est ce qu'indique ce matin la presse espagnole.
Et 2 heures de retard, l'entraînement est fini.
Bah il y a un peu de ça finalement. Alors il aurait oublié de se réveiller, de mettre son réveil une fois de plus, Ousmane Dembélé. Alors on est à J-2 du match de Ligue des Champions contre Tottenham. On rappelle que le Barça est qualifié, assuré de terminer premier du groupe. C'est vrai qu'on avait l'impression que finalement ça allait un peu mieux pour Dembélé. Il y a pas mal de joueurs qu'il avait défendu dans la presse ces derniers jours en disant bon bah ça y est, il a compris, etc. Et puis finalement bah rebelote quoi.
Le problème c'est que qu'un réveil ne sonne pas et que du coup tu te réveilles pas. Je l'ai pas connu moi personnellement, ça m'est pas arrivé. J'ai eu des bons réveils, mais j'en ai vu toute ma carrière dans tous les clubs, à tous les niveaux. Ça arrive. Le problème, c'est le timing, quoi. Après tout ce qui s'est passé, que ça lui arrive encore une nouvelle fois, le problème, c'est que les gens ne pensent plus que ça puisse être un accident. Voilà, c'est ça le problème. Alors que c'en est peut-être un, c'est peut-être juste un réveil, effectivement, qui a pas marché, ou l'iPhone qui avait plus de batterie, il s'éteint pendant la nuit, bim, il sonne pas. Ça doit pas arriver. Quand t'es pro, ça doit pas arriver.
Bah, il va être encore sanctionné.
Mais, parfois, ça arrive. Et ça arrive là, au mauvais moment, je trouve,
pour lui. Après tout le bordel qu'il y avait eu, il avait aligné des belles prestations sur le terrain. Donc on avait moins parlé de ces problèmes extrasportifs. Là, il y a un problème extrasportif. On va voir comment le Barça va gérer ça. Mais le Barça doit être un peu le cul entre deux chaises en ce moment. Ils disent bon, on a un bon joueur. Ces derniers temps, il est plutôt pas mal. Il y a un mois, je pense que ça doit varier très souvent en ce moment. Il y a un mois, il était partant pour d'estiver. Ça change, je sais pas, mais
après on sait peut-être pas tout. Enfin, c'est peut-être honnêtement juste une panne de réveil, et puis ça peut arriver.
Non, mais là, ça arrive souvent quand même.
Le timing est pas le bon, mais ça peut être juste ça, quoi.
Oui, mais c'est malheureusement tout le temps.
Il y a
énormément de problèmes avec lui, donc
qu'ils prennent quelqu'un pour le réveiller, je sais pas.
Bah déjà, c'est vrai. Quelqu'un pour la bouffe.
Ouais, attends, le mec qui fait la bouffe, il peut le réveiller aussi.
Il prend la bouffe, le chauffeur, un homme réveil.
T'en prends un, tu le payes bien, il fait tout.
Chiotte aussi.
Tu fais quoi dans la vie, tu réveilles?
Non, mais bon, voilà.
Un homme réveillé, c'est pas mal. Tiens, Infantino était l'invité ce matin de Téléfoot. Il s'est exprimé sur les Football Leagues et l'accord passé avec le PSG concernant le fair play financier. Jean L'Enfant. Il a déclaré, dans les règles du fair play financier, il est marqué expressément qu'il faut faire des accords avec les clubs. L'idée n'est pas de tuer les clubs, mais de faire en sorte de les assainir. C'était mon job de discuter avec les clubs. Quand il y a autant de monde, vous pensez que l'on peut magouiller. Ce n'est pas possible, car ça sort, et c'est bien que ça sorte. Ces accords ont été publiés, et à mon avis, il n'y a rien de choquant, a déclaré le président.
Ben, c'est ce qu'on a toujours dit, mais
oui,
visiblement,
mais
il y a des gens...
entendu dire ça en plus.
Il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est qu'un accord et qui pensent immédiatement qu'il y a un complot international, mondial et corruption. Ouais. Mais c'est des accords de business, ça s'appelle.
Et puis ça ne s'est pas fait avec le PSG, je pense.
Le fair play financier n'a jamais dit que c'était punition immédiate ou sanction. Le but n'a jamais été de je te sanctionne, tu ne participeras pas à la Ligue des Champions de l'année prochaine parce qu'on sait que ça met un club en péril. L'UEFA n'a pas pour mission de mettre un club en péril. L'UEFA a pour mission de faire en sorte que les finances soient tenues correctement. C'était la première mission, c'était d'éviter qu'un club aille en faillite parce qu'il dépense trop.
C'était de réduire les déficits
dans le cas
des
du
clubs.
PSG du Qatar, c'est un petit peu différent. C'est est-ce que tu dépense réellement l'argent ou est-ce que tu prends dans d'autres caisses, ce qui ne doit pas se faire non plus, évidemment. Et c'est là qu'est la limite justement du fair play financier. Mais ça, on en a parlé mille fois, on a essayé d'expliquer. Sauf qu'il y a des gens qui sont tellement anti-PSG qu'ils ne veulent même pas écouter, qu'ils comprennent pas. T'as des gens qui sont journalistes mais ils traitent d'un dossier qu'ils ne comprennent pas parce que je dois travailler à Science et Vie, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas comprendre.
Mais c'est quoi, Daniel? Je suis dans le foot, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que ce fair-play financier, vous me dites si je me trompe, hein, mais c'est le seul secteur d'activité où tu peux empêcher un investisseur d'arriver et de mettre ce qu'il a
mais
comme argent.
Aussi sa limite, et c'est pour ça que beaucoup disent
juridiquement.
On est
borderline, ouais.
Si après tu pousses vraiment la réflexion autour du sport, le sport et les entreprises de sport professionnelles sont les rares aussi qui dépendent de résultats sportifs et qui sont pas maîtrisables. Bah ouais, c'est pas maîtrisable.
Ouais, il y a des secteurs d'activité où tu maîtrises pas tout non plus.
Là c'est vraiment différent.
Pourtant tu peux investir ce que tu veux.
Tu peux descendre parce que je sais pas, tu prends un CSC la dernière journée et là c'est une catastrophe industrielle et tu peux pas le maîtriser ça. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends.
Si t'as géré la boîte, faire en sorte
Je comprends, mais t'as d'autres secteurs d'activité où ça peut t'arriver aussi rapidement. Hein. Pas sur un but.
Une petite info également, sachez que Atlanta United a remporté la MLS. Ils ont gagné en finale face au Portland Timbers. L'entraîneur, c'est Tata Martino, l'ancien du Barça. Alors qu'il va quitter le club d'ailleurs. Il a été élu entraîneur de l'année.
Tata.
La MLS. Voilà, ils ont remporté donc la MLS. 2 ans seulement après avoir intégré d'ailleurs la compétition. Une petite info également qui vient d'Espagne, c'est assez fort. Les joueurs de Reus en D2 ont arrêté de jouer pendant 1 minute afin de protester contre les salaires impayés. Ils ont 3 mois de salaire. Au coup d'envoi du match face à Alcorcon, ils sont restés sur le milieu du terrain entrelacés, applaudis par leurs supporters. Ils se sont imposés 1-0 face à Alcorcon, qui est deuxième de Liga.
Putain, Alcorcon n'a pas profité pour marquer un premier but.
Eh non, ils ont joué le jeu aussi, si on peut dire. Et on va retourner en Espagne justement retrouver Fred Hermel qui nous a fait vivre tout à l'heure la finale de Copa Libertadores entre River et Boca. On rappelle victoire 3-1 de River après prolongation avec notamment un but de Quintero. Fredo,
c'est là, Fredo. C'est une expérience. C'est une expérience.
Ouais, ça a l'air traumatisante un peu quand même.
Non, non, mais bon, c'était passionnant de vivre un match argentin dont on a beaucoup parlé, de le voir en direct. Après, c'est effarant le niveau technique. Enfin, c'est en Espagne, même en troisième division, ils sont meilleurs, quoi. Enfin, c'était pathétique quand même par moment. Mais après, voilà, il y avait l'ambiance, il y avait l'énervement, la tension. Alors, on a beaucoup discuté avec Pierre pendant le match. Je pense que aussi la tension, la pression qu'il y avait de l'événement a fait déjouer un petit peu techniquement certains joueurs qui n'ont pas été à leur niveau. Mais on a vu quand même des pertes de balles, des transmissions ratées, des balles qui allaient directement en touche, etc. Moi, qui vis dans la meilleure Liga du monde, m'ont un peu étonné. Après, je pense que ce qui s'est passé, et Jonathan et Pierre l'avaient, et toi, Nico, vous l'aviez bien lu, River est globalement une meilleure équipe, qui était en plus mieux armée physiquement. Et puis, voilà, l'expulsion de Barrios et la blessure de Gago, bon, voilà, ont totalement tué cette équipe de Boca. Mais ce soir, qu'est-ce qu'on va retenir, les amis? Parce que l'aspect sportif, finalement, il n'est pas très important. Je viens de discuter avec des policiers argentins qui faisaient partie du système global organisé entre l'Espagne et l'Argentine. Il y a eu zéro incident. C'est-à-dire que c'est une finale qui a dû être délocalisée, reportée, délocalisée à cause de la violence. Et là, il ne s'est rien passé. Et la grande nouvelle, c'est ça. C'est que voilà, il y a eu 60 000 supporters qui, depuis plusieurs jours, passent des moments ensemble, où les supporters de River et de Boca ont été mélangés, et il y a eu zéro problème, zéro, 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 avant, pendant, et juste après le match. On va voir comment ça se passait pendant la nuit, mais a priori, il ne va pas y avoir de problème. Et finalement, la grande réussite, la grande victoire, plus au-delà de la victoire de River, c'est la victoire du football. Oui, on peut voir un super classico sans qu'il y ait des blessés, et ça, c'est plutôt bon signe.
Merci Fredo, on te retrouve demain dans l'after, Fred.
Avec grand plaisir.
Merci, bonne nuit. Ciao Fredo.
On peut voir un super classico sans blessé quand on le met à 8000 bornes, quoi. C'est oui, ça le problème. C'est oui. Ça le plus gros problème. Enfin, c'est qu'on l'a délocalisé parce qu'on n'a jamais réussi à le jouer sur place, quoi, quand même.
Oui.
Donc on peut le voir, enfin, voilà.
Tiens, accueillons Albéric qui a suivi ce match également et qui est avec nous en direct dans l'after. Salut Albéric.
Ouais, salut Nico, salut Fred et salut Pierre.
C'était pas fou en termes de jeu, Albéric, hein, quand même, hein, cette finale de Libertadores. Hein.
Bah écoute, comme le disait Fred, mais bon, Fred peut-être que ne regarde pas trop le championnat sud-américain. C'est vrai que le niveau technique est bien plus faible qu'en Europe. Mais moi, je voulais revenir par rapport à ce que disait quelque chose de Daniel par rapport à Quintero. Quintero a joué à Rennes, un peu comme Luis Fabiano a joué à Rennes 12 matchs. 12 matchs, 0 but. Quintero, on lui a pas laissé sa chance. Luis Fabiano est parti à Séville et derrière, on sait ce qu'il est devenu. C'est-à-dire peut-être qu'on laisse pas trop la chance à ces mecs de Sud-Amérique de devenir ce qu'ils peuvent faire, en tous les cas. Mais après, bah,
en tout cas, en Ligue 1, comme je le disais, la même chose pour Ganso tout à l'heure, footballistiquement, il y a un écart culturel qui est difficile. Et forcément, les mecs brilleront plus s'ils vont en Liga.
Déjà, pour convaincre un club de Ligue 1 de prendre un Sud-Américain, c'est compliqué. Après, une fois qu'il est là,
oui, parce que
on n'appelle pas. Non, mais je rejoins.
C'est pas le même football. Quand toi, tu joues, t'aimes jouer avec le ballon et tu joues avec des mecs qui jouent avec des boîtes, c'est pas simple.
Ouais, c'est pas que ça. C'est pas que ça.
Le mec s'adapte aussi au pays, à la langue.
C'est pas que ça.
Quintero, ça a beaucoup été ça aussi. Hein.
Non, et puis c'est peut-être
qu'on veut le régime alimentaire et tout. Enfin, c'est chaud.
C'est peut-être que justement, on veut que ces joueurs-là jouent notre football, alors que si tu les prends, logiquement, c'est pour leur qualité et leur football, et qu'à un moment donné, il faut aussi accepter que ces joueurs-là jouent différemment. Ouais. Et ça, on a peut-être du mal à le faire.
Allez, ouais. Bon, après, si on revient sur le match et cette finale, moi, clairement, le coaching est vraiment à remettre en cause niveau côté Boca, c'est-à-dire qu'il sort Benevento, qui est le meilleur joueur de Boca, à la 56e. D'ailleurs, je le vois sortir, et le coach qui a l'impression d'avoir déjà gagné, et derrière, River qui prend forcément Boca qui recule, et River qui reprend l'ascendant. Bon, après, il fait rentrer Gago, qui 15 minutes plus tard se blesse et qui sort alors qu'ils ont fait les 4 changements. Écoute, voilà. Au moins, cette finale s'est bien passée. Ouais. Mais c'est un peu triste que ça se passe à Madrid et pas en Argentine.
Merci Albéric d'avoir été avec nous.
Ouais.
Bonne soirée Albéric.
Bonne soirée.
À bientôt.
Bonne
ciao, ciao Albéric. Merci beaucoup Pierre Ducrot. Merci Cyprien
Nicolas Abbé.
Merci les équipes techniques et éditoriales. Merci Daniel qu'on retrouve demain.
Les amis, à demain.
Voilà. Et ciao, Daniel qui reste là parce qu'il y a le RMC Poker Show dans quelques instants.
RMC Football Show, l'After Foot.